Jean-Bernard Leroy, je vais donc reprendre le bien commun et faire une conclusion pour cette petite excursion qui, j'espère, n'a pas trop empoisonné mes auditeurs. Je vais faire ce dernier exposé sur le thème du bien commun. Nous avons vu que le rôle de l'État dans l'exercice de son autorité légitime était la promotion du bien commun, lequel ne peut être défini qu'en référence à la personne humaine. Le catéchisme de l'Église catholique en parle longuement. Il le définit ainsi. L'ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection de la manière la plus totale et la plus facile. Le bien commun demande la participation de tous, en particulier de ceux qui exercent l'autorité, laquelle, faut-il le rappeler, est avant tout un service. Le terme « rendre service » a pris de nos jours un sens quasi obscène. On ne parle de service que lorsqu'il s'agit de profiter des services rendus par les autres. Pourtant, le Christ a bien rappelé la grandeur du service que l'on donne. Le bien commun exige trois éléments qui résument assez bien l'essentiel des devoirs qu'entraîne la doctrine sociale. Le premier, c'est le respect de la personne, valeur essentielle. On parle beaucoup de valeurs actuellement, mais il s'agit surtout de sous-entendre des pratiques qui ne sont guère respectables, comme la liberté de faire tout ce qui vous passe par la tête, par exemple de piétiner le jardin du voisin si les plantes qu'il cultive ne vous plaisent pas, l'égalité pour celui qui n'est astreint qu'à des heures de bureau d'avoir autant de facilité pour ses vacances que celui qui se trouve sans cesse dans l'obligation de se déplacer, j'ai rencontré le cas, de se déplacer parfois fort loin, ou bien le droit de mentir et de calomnier en gauchissant des faits réels, mais présentés de façon partielle et partielle. La valeur fondamentale d'où toutes les autres découlent est celle de l'homme, créé à l'image de Dieu et racheté par le sang du Christ. Cela commence par le droit à la vie et continue par le respect de la vie privée, en particulier la liberté de pratiquer sa religion. Cette chose a été longuement discutée. Le père Basile, un moine du Barou, a étudié la question à fond, en 6 volumes, qu'il a résumé en un seul de 400 pages, mais c'est quand même ce problème de la liberté religieuse est très important. Disons que ce n'est pas à l'État de décider ce que chacun doit faire dans ce domaine, cela dans la limite du droit naturel, naturellement. L'État aurait parfaitement le devoir d'interdire les sacrifices humains, mais pas ceux d'interdire le sacrifice du mouton. Sauf peut-être si on le fait dans une baignoire, mais ça c'est une autre question. Cela dit, ce n'est pas dans le rôle de l'État d'intervenir dans les querelles religieuses, sauf si elles menacent l'ordre public naturellement. Le deuxième point, c'est la recherche du bien-être social. Dans un premier temps, c'est le droit à la consistance de groupes particuliers qui se défendent de défense de leurs intérêts, que ce soit l'agriculture, l'industrie, l'artisanat, les arts, la distraction, les équipements publics. Aussi, le droit à l'information, la vraie, pas la diffusion de ragots mensongers. Et surtout, le droit de fonder une famille et son corollaire, le droit à la propriété qui assure l'indépendance de la dite famille, ainsi que le droit à l'éducation. Là aussi, il faut répéter que l'enseignement est sous la responsabilité des parents qui la délègue au professeur, l'État a à sa charge l'organisation du système éducatif, mais absolument pas les principes qui la soutiennent. C'est tout à fait légitimement que les parents peuvent exiger une dimension religieuse de leur choix, dans la limite naturellement de l'ordre public. On ne saurait tolérer des écoles de banditisme ou de terrorisme. Mais lorsque les parents ont parfaitement le droit de réclamer une éducation basée sur des principes religieux, le nier est une atteinte à leur liberté fondamentale. Le troisième point, c'est la paix. La première fonction de l'État, appelée pour cela régalienne, est d'assurer la justice, l'ordre et la sécurité. L'État est le garant du droit à la légitime défense, tant extérieure qu'intérieure, tant au niveau des individus que des collectivités. Il est symptomatique de constater que tous les grands empires se sont effondrés dès qu'ils n'ont plus été en mesure d'assurer la sécurité dans leur domaine. Les Perses, les Égyptiens, plusieurs empires chinois et l'exemple le plus connu de nous tous, l'Empire romain. L'Empire romain a éclaté en de multiples royaumes barbares dès qu'il a été incapable d'assurer l'ordre dans ses frontières. L'Empire carolingien paraissait bien solide, mais sous les coups des Vikings, des Hongrois et des musulmans, a été incapable d'assurer la sécurité de ses ressortissants et a éclaté dans le système féodal. Nos dirigeants actuels feraient bien de se le rappeler, car le développement de l'insécurité est un bien mauvais présage. On pourrait aussi parler de l'accroissement des impôts qui accompagne toujours l'accroissement de l'insécurité, mais ça, c'est une autre histoire. Les trois buts, donc, le but, le personne, la défense des groupes et la paix, supposent un développement adéquat des corps intermédiaires. L'État doit alors jouer un rôle d'arbitre, évitant que les uns profitent de leurs forces pour écraser les plus faibles. On peut juger de tels dangers par la puissance actuelle de la grande distribution, aidée, il est vrai, par une législation démentielle. On reconnaît l'alliance perverse entre le libéralisme et le socialisme. Donc, les moyens, la grande puissance actuelle de la distribution face aux petits producteurs qui cherchent à conserver une production de qualité. Ce rôle d'arbitre est souvent très difficile et demande un don qui n'est guère prisé de nos jours et qui s'appelle la sagesse. On consulte beaucoup d'experts. Je parle d'expérience car on m'a souvent ajouté à leur nombre. Mais l'expert, je parle encore d'expérience, ne voit qu'une partie, avec précision certes, mais ne voit qu'une partie souvent bien étroite de la réalité. Il reste à faire la synthèse, et cela n'est pas à la portée de n'importe qui. Je me rappelle avoir entendu avec effroi un directeur de recherche, il était scandinave, auquel je demandais qui était chargé de la synthèse des analyses très fines de son laboratoire. Il m'a répondu, c'est l'ordinateur. Mais demander à une machine aussi stupide que l'ordinateur, lequel est doué d'une mémoire prodigieuse, mais encore plus incapable de réflexion qu'une huître ou qu'une méduse, demander donc une synthèse à un tel outil, voilà ce qui explique l'ineptie de tant de nos règlements. Le monde actuel, où les relations humaines ne cessent de s'intensifier, conduit à mettre sur pied des organisations à l'échelle de la planète pour promouvoir un bien commun universel qui inclut les aides aux catastrophes naturelles ou causées par les hommes, les famines, les épidémies, les exils, les tueries, les massacres, etc. La difficulté est alors d'harmoniser les aides de communautés très dissemblables quant à leur mentalité et à leur puissance financière. Je prononce ces paroles au moment où on apprend que l'État birman refuse avec obstination toutes les aides internationales parce qu'il a peur qu'on regarde ce qui se passe chez lui. C'est évidemment une atteinte à un droit fondamental, le droit des populations d'être aidées par d'autres. Ajoutons que si l'homme a le devoir de rechercher la vérité de toute son âme et de tout son esprit, le pouvoir civil n'a aucune autorité en la matière, sinon pour faciliter à chacun l'exercice de sa religion, l'exercice de sa recherche de la vérité. Je crois que c'est saint Athanase qui s'était violemment élevé contre les chrétiens qui voulaient éradiquer le paganisme par la force dès le IVe siècle, dès l'édit de Constantin. Cet effort vers le bien commun demande de grands soucis d'organisation. Mais il faut garder à l'esprit que les normes concernant la conduite des hommes sont à chercher là où Dieu les a inscrites, c'est-à-dire dans la nature humaine. En effet, ce n'est pas la société qui a créé la nature humaine, mais bien le contraire. L'homme est antérieur à la société et existera bien après elle. Il faut certes distinguer entre le droit fondamental, il est interdit de tuer ou de voler, et le droit dit positif, faut-il rouler à gauche ou à droite. Mais il est nécessaire qu'on choisisse un côté. Si le second peut être décidé à un niveau purement humain, encore faut-il être assuré de le faire à l'égard de toute pression égoïste ou passionnelle, tout ce qui touche au droit fondamental doit être respecté comme venant de Dieu lui-même. Une fois que l'on a rendu à César ce qui est à César, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes, comme l'ont montré de multiples martyrs tout au long de l'histoire. Pie XII a rappelé que considérer l'État comme une fin à laquelle toute chose doit être subordonnée ne peut que nuire à la prospérité des nations, car alors l'État prétend régner en maître absolu et s'attribuer des droits qui n'appartiennent qu'au Créateur. Pie XII ajoutait en 1941, c'est tomber dans l'erreur d'affirmer que la fin propre de l'homme sur la terre est la société et que la dite société est à elle-même sa propre fin, c'est-à-dire d'affirmer que l'homme n'a pas d'autre vie qui l'attend après celle d'ici-bas, n'a pas d'autre vie qui l'attend après celle d'ici-bas. Ce disant, il condamnait le fascisme, le nazisme, le communisme et le libéralisme tel qu'il est vécu dans notre République actuelle. On y chercherait en vain la moindre mention à Dieu et à son au caractère surnaturel de la nature humaine, et cela au nom d'un laïcisme réducteur dont les revendications concernent uniquement le pouvoir d'achat et la liberté des mœurs. L'homme est ainsi ramené à un tube digestif doublé d'un organe sexuel. Il faut le dire et le répéter. Il existe des lois injustes. Certes, on le savait depuis Antigone, mais Chiron se réincarne sous mille et une formes. Cela dit, l'État qui doit effectivement respecter la liberté légitime doit aussi veiller à une certaine égalité. Cela demande à être précisé. Car il faut redire que tous n'ont pas reçu les mêmes dons. Saint Paul le rappelle dans son épître aux Éphésiens. Des uns, Dieu a fait des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. Saint Paul dit aux Corinthiens, « À l'un, l'Esprit donne une parole de sagesse, à l'autre est donné une parole de science, selon le même Esprit, à un autre la foi, à un autre le don de guérir, à un autre le don des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre le nom de la diversité des langues, à un autre l'interprétation. » Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue ses dons à chacun en particulier comme il lui plaît. Nous sommes loin des consignes actuelles d'enseignants qui veillent à ce qu'on n'apprenne pas à lire avant 6 ans et qui tolèrent à peine qu'on sache diviser par 2 et par 5 à 8 ans. Nul doute qu'ils auraient interdit à Mozart de composer des symphonies. L'égalité entre les hommes est une égalité fondamentale. Celle de créature à l'image de Dieu et aimée par lui en conséquence. Les modalités multiples de cette dignité sont différentes et complémentaires, ce qui est une richesse. On pense en particulier au caractère complémentaire de l'homme et de la femme. Voici donc terminée mon excursion dans la doctrine sociale de l'Église, excursion bien incomplète d'un modeste amateur qui a surtout constaté combien notre pauvre monde était en train de s'égarer. Dieu, regardez la tour de Babel de l'extérieur, car il en était chassé. Puis ces quelques minutes passées sur Radio Silence incitaient chacun à approfondir cette doctrine, afin de susciter un jour des gouvernants et des responsables dignes de ce nom. Le mois prochain, si Dieu me prête vie, je vous proposerai une excursion dans l'aspect actuel des commandements de Dieu. Je vous remercie, je vous souhaite de bonnes fêtes de Pentecôte si vous l'entendez avant, et de toute façon, à bientôt.